conversation avec un article, 27e épisode. Déjà, le principe de ce podcast, un compte rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Alors, j'avais pas fait d'épisode depuis octobre. La fatigue, tout ça, et puis le souffle. Je sais jamais si ces initiatives n'intéressent pas que moi, ce qui serait déjà une bonne raison. Mais j'ai eu des échos larges et positifs ces derniers mois de collègues ou d'étudianteux, des échos qui m'ont poussé à reprendre la production d'épisodes. Donc me voici pour une nouvelle saison irrégulière, chaotique, puisqu'elle commence à la fin de l'année. Mais c'est comme ça, ici on fait avec notre élan du moment et notre désir très fluctuant. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, mais je pense lancer un nouveau podcast annoncé il y a un moment déjà sur Twitter. Un podcast qui pourrait remplacer celui-ci ou être produit en parallèle. Un podcast sur la télé-réalité, toujours à partir d'articles scientifiques récents. Je referme la parenthèse avec le voisin qui a décidé de faire des travaux aujourd'hui. Allez, je commence et je vous propose à la lecture aujourd'hui, à la lecture analytique, synthétique, critique, un article publié dans la revue Urban Studies et rédigé par Emilia Arpini, Andrew Cumbers, Betia Pearson, des chercheuses de l'université de Glasgow, et Alexander Panez, un chercheur de l'université de Bio au Chili. Je vous ai mis toutes les références, comme d'habitude, dans les métadonnées du podcast. Leur article porte sur les initiatives en Amérique latine, plus précisément en Argentine et au Chili, pour reprendre le pouvoir face au néolibéralisme, au capitalisme et à toutes les politiques d'austérité. Je trouve ces exemples inspirants à une époque où nous avons, nous aussi, à faire face en Europe à ces politiques. Comment les Argentins et les Chiliens s'y ont pris ? Que reste-t-il à mettre en place pour préserver les pays, de la prédation financière et des politiques qui détruisent les solidarités au profit de l'économie ? Pour y répondre, les quatre universitaires s'appuient sur une littérature riche sur le sujet du municipalisme et de l'autogestion collective, complétée par des entretiens menés avec les représentants d'organisations au Chili et en Argentine. Alors j'ai parlé de municipalisme et d'autogestion collective, mais que désigne-t-on par là ? Sans le dire explicitement, les auteurs se réfèrent à Murray Bookchin, qui en est le principal théoricien moderne. Il désignait par là des formes d'associations locales, plus ou moins autonomes, reliés dans une même fédération capable d'irriguer tout le corps social. Le but est de sortir les gens de leur sommeil en leur donnant une capacité d'agir collectivement, en arrachant le pouvoir des mains de l'État et en occupant le territoire, les rues, les parcs, les ronds-points, avec des coopératives, des écoles populaires, des gardes partagées, des syndicats, etc. Le but finalement est d'amener les individus à s'inquiéter de nouveau pour leur monde, pour sa survie, ce qui nécessite des diagnostics et des enquêtes collectives pour identifier les responsables, à savoir le capitalisme, le marché, la propriété privée, la croissance, la concurrence, etc. A l'inverse, dans un système communaliste, les besoins des individus et des communes fédérées sont toujours reliés aux capacités de la nature et de ses limites. Je vous ai mis quelques références là aussi pour aller plus loin, sachant que j'ai quand même dégraissé très rapidement une question qui a fait l'objet d'énormément de publications. Je reviens à l'article. Dans leur introduction, les quatre auteurs insistent sur un point. En matière de municipalisme, il faut se garder de tirer des leçons générales à partir d'initiatives situées. Autrement dit, le municipalisme en Europe est différent de celui de l'Amérique latine. Si les deux réagissent aux politiques dites néolibérales, capitalistes et austères, ils n'ont pas la même histoire. Dans la première partie, les auteurs identifient les spécificités du municipalisme européen. Ce municipalisme est une réponse aux crises des États qui les ont amenés à attaquer les budgets publics, les syndicats, les mouvements sociaux, par exemple en Espagne en 2007-2009 ou actuellement en France. Pour y répondre, les opposants politiques ont mis en place des politiques de proximité, une défense des biens communs, des mouvements déhiérarchisés et démasculinisés. En fait, ce qu'observent les quatre auteur de l'article, c'est un double processus. Le renforcement du pouvoir à l'extérieur de l'État par l'engagement à l'intérieur des institutions municipales. D'une certaine manière, on a affaire à un État dans l'État et des formes de lutte interne. Dans une deuxième partie, les auteurs s'intéressent plus spécifiquement aux crises en Amérique latine qui sont plus anciennes. En effet, de longue date, ce continent est attaqué par le néolibéralisme et par la prédation financière. Les théoriciens municipalistes latino-américains situent ainsi les années 80 comme point clé, comme point tournant. À cette époque, les secteurs clés sont privatisés, les municipalités sont chargées d'exécuter les politiques nationales, mais sans moyens et sans véritable autonomie dans des pays dont certains sortent de la dictature et sont donc affaiblis. Les années 90-2000 connaissent ainsi plusieurs vagues municipalistes. Dans la troisième partie, les auteurs se focalisent sur l'Argentine et le Chili. En Argentine, les réformes néolibérales d'austérité se sont développées dans les années 80 et ont été portées par le régime militaire lui-même, comme au Chili sous Pinochet. Puis dans les années 90, le gouvernement argentin, soutenu par le FMI, a mis en place un vaste programme pour contrer l'inflation, d'où l'augmentation du chômage et la marginalisation des plus pauvres, et d'où de nouveaux mouvements sociaux contre la privatisation des ressources et des espaces communs, contre les taxes d'habitation, contre l'hyperinflation, jusqu'à la mise en place des groupes d'activistes dans les quartiers populaires. Au Chili, les politiques de Pinochet ont manifestement engourdi la population. Ce n'est qu'au seuil des années 2000 que les quatre auteurs identifient les premières contestations pour faire face aux hausses des frais universitaires. La deuxième vague de contestation a lieu dans les années 2010 pour annuler ces réformes. La quatrième et dernière partie s'intéresse aux initiatives argentines et chiliennes. En Argentine, on a vu se développer des assemblées populaires, des budgets participatifs, des forums de prise de décision, de nouveaux programmes agricoles. Au Chili, depuis les années 2010, on voit se développer des stratégies de réappropriation des services publics gérés par les autorités locales, comme des pharmacies populaires. On voit également des coopératives de travailleurs qui reprennent des entreprises, des déprivatisations des services d'eau, ainsi que des partenariats entre ces autorités et les institutions publiques. L'Open University de Recoleta est l'exemple le plus fameux et le plus déprimant, selon moi. Dans un article que j'ai trouvé sur Internet pour compléter cet épisode, le maire communiste s'est réjoui d'offrir des cours gratuits, des séminaires et des ateliers publics pour toute personne désireuse de s'instruire. Bref, le Chili est juste en train de retrouver ce que nous avons déjà en France et que nous sommes en train de perdre. En termes d'effets positifs, les auteurs notent que les personnes sont beaucoup plus conscientes de leur environnement social, naturel, économique lorsqu'ils développent ou accueillent ce type d'initiative et de politique. Mais ils notent cependant deux problèmes. Premièrement, la capacité du néolibéralisme et du capitalisme, bon, c'est un truc classique, on observe tout le temps, hein. Ils se réapproprient ces projets participatifs qui finissent par devenir des modèles administratifs et technocratiques. On a la même chose en France aujourd'hui avec les appels à projets pour tout et n'importe quoi, qui permettent de régir des initiatives, même locales, depuis le centre. Deuxième problème, le piège local. Comme l'écrivent les auteurs, certes, les individus se réapproprient les services publics, certes, ils se réapproprient les moyens de production, certes, ils ont accès à la santé, à une formation équitable, ce qui est déjà pas mal, hein, donc il y a un effet un peu indécent dans mon argument concessif. Mais les gouvernements locaux manquent de moyens, de manière générale, de ressources financières, sociales, juridiques, qui permettraient une transformation large. Autrement dit, l'État national semble nécessaire et c'est tout le paradoxe. Alors, comment on fait? Comment relier ces différents niveaux, le local, le global, le mezzo? Les quatre auteurs font une proposition intéressante en forgeant un nouveau terme, le municipalisme territorial. Selon eux, la notion de territoire est essentielle à la fois pour étendre la lutte, pour préciser et fédérer les collectifs. Dans leur logique, le territoire est pensé comme un espace où la vie peut subsister et où elle transcende les communautés, les mouvements, les collectifs. En fait, le territoire permet de désigner les ennemis, le capitalisme, l'extractivisme, toutes les logiques de spoliation des biens et de destruction des individus subalternes et du vivant. Il s'agit donc de leur opposer l'occupation des sols, la défense des biens communs, des liens et des solidarités, d'où les gardes partagées qui se multiplient, d'où les repas communautaires, d'où l'attention portée aux voisins démunis, d'où la protection des personnes s'occupant des services publics, les fonctionnaires, quoi. Mais pour cela, pour que ce soit efficace, il y a une nécessité d'articuler les actions communautaires aux actions institutionnelles. Par exemple, à Recoleta, des agences immobilières populaires ont été mises en place. Et ainsi, l'État municipal loue des appartements aux pauvres en proposant des prix équitables. Mais les appartements sont construits grâce aux fonds du ministère central, ce qui permet d'éviter la spéculation foncière. Il y a donc une nécessité, écrivent les quatre auteurs, de politiser le territoire et de re-territorialiser le politique. Pour terminer, quelques mots rapides et personnels, comme à mon habitude. Alors, j'ai trouvé l'article passionnant et important parce qu'il nous donne à voir sans tomber dans une sorte de futurisme ou prospectivisme. Il nous donne à voir ce qui pourrait advenir chez nous et qui est déjà, qui est déjà là. Même si les situations sont différentes d'un point de vue historique, social et politique, l'article nous invite à être vigilants et à observer dans chaque contexte spécifique la mise en place des politiques d'austérité. Article passionnant donc, dense et paradoxalement un peu rapide par moments. J'aurais par exemple aimé voir un peu plus détaillé la question de la vie dans ces municipalités. Concrètement, qu'est-ce qui change sur le long terme pour les individus? Est-ce qu'ils observent une consolidation des liens, des affects, des solidarités? Est-ce qu'ils mettent en place d'autres formes d'associations? Est-ce qu'il y a une alternative au capitalisme très puissant pour fabriquer du désir, pour fabriquer de l'adhésion? On a tendance à l'oublier. Est-ce qu'un désir alternatif s'est solidement implanté qui nous permettrait d'ajourner ces politiques et de donner à voir comment on pourrait progressivement en sortir? Dernier point, la question territoriale. Les auteurs mentionnent le travail des femmes, des autochtones, des subalternes pour défendre les terres contre les politiques d'austérité, contre l'extractivisme et la destruction du vivant. Là aussi, j'aurais aimé avoir des exemples concrets tels qu'ils sont présentés dans une anthologie, de textes d'Amérique latine qui vient de sortir et d'être publié aux éditions du Dehors. Je cite le titre « Vivant, des femmes qui luttent en Amérique latine ». Et on comprend que c'est l'agriculture qui est revue de fond en comble, mais également les modes d'association, les rites sociaux, le rapport intellectuel à la terre, au colonialisme, au corps. Bref, c'est une nouvelle société qui est proposée et qui est mise en place. Voilà, je vous retrouve je sais pas quand. Sans doute en septembre ou octobre 2023 pour un 28e podcast. D'ici là, j'aurai peut-être lancé le nouveau podcast sur la télé-réalité et sur le même mode d'une lecture d'articles commentés, analysés, décortiqués. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances si vous en prenez. Je vous souhaite de vous reposer, le repos faisant partie de la lutte. À bientôt.